18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Je pense pas que son camp veut le voir débattre parce qu'à chaque fois qu'il parle, c'est mauvais. Je pense qu'il n'a pas toute sa tête et il n'est pas en capacité d'être président.
Et ça y est, les hostilités sont lancées avant le grand débat de ce soir entre Trump et Biden. Ce sont leurs militants qui s'écharpent. On sera à Cleveland, dans l'Ohio, avec Xavier Yvon.
L'homme qui a grièvement blessé 2 personnes vendredi dernier devant les anciens locaux de Charlie Hebdo avait l'intention d'incendier le bâtiment. Il a par ailleurs, on l'apprend aujourd'hui, menti sur son âge.
Un niveau de défiance jamais atteint pour un garde des Sceaux. Alors qu'il présente pourtant un budget en hausse spectaculaire, Éric Dupond-Moretti continue de subir un rejet massif au sein de la magistrature.
La fin du spectacle, c'est le cas de le dire pour les animaux sauvages, ils seront bientôt interdits dans les cirques itinérants.
C'est parti pour la 5G, la France lance les enchères, il va bientôt falloir changer nos téléphones.
À Roland-Garros, petite journée jusqu'à présent pour les Français.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en légère baisse, moins 0,23% à 4832 points.
Et puis la tendance météo avec Anissa, beaucoup plus de soleil et ce qui compte, c'est le beaucoup.
Exactement Julien, on est content, on va retrouver du beau temps demain sur les trois quarts du pays parce que le temps est toujours pluvieux au nord. Les températures, elles continuent de grimper demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et des airs de combat à la Rocky Balboa. Après des mois d'invectives et de coups bas, l'heure du face-à-face a donc sonné. Donald Trump et Joe Biden se retrouvent cette nuit ensemble sur scène à 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous très haute tension.
Rocky Balboa, je ne sais pas, 73 ans pour l'autre, pour l'un, 75 ans pour l'autre. Bon, en tout
c'était
cas,
l'image du combat.
C'est le premier des trois débats entre les deux candidats. 120 millions de téléspectateurs potentiels pour cette première confrontation.
Et on vous retrouve, Xavier Yvon, vous êtes dans l'Ohio, à Cleveland. Où vont donc se retrouver les deux candidats? À 3h du matin, heure française. Alors on ne doute pas qu'il va y avoir de l'ambiance, mais sur le fond, Xavier, rappelez-nous les enjeux de cette soirée.
Eh bien pour Donald Trump, ça va être de faire chuter Joe Biden, bien installé confortablement en haut des sondages depuis des mois. Il doit le déstabiliser pour prouver ce qu'il répète en boucle. Son adversaire est sénile, grabataire. Il va sûrement être dopé pour tenir les 90 minutes de débat. D'ailleurs, Donald Trump a même réclamé un contrôle antidopage, au point que ses supporters comme Jennifer sont vraiment convaincu de la santé mentale défaillante de Joe Biden.
Je suis même persuadée que Biden ne va pas venir avec l'excuse du Covid ou un truc comme ça. Je pense pas que son camp veut le voir débattre parce qu'à chaque fois qu'il parle, c'est mauvais. Je pense qu'il n'a pas toute sa tête et il n'est pas en capacité d'être président.
Même s'il fait parfois un peu fatigué, Joe Biden a bien sûr toute sa tête. Et donc, s'il s'exprime clairement, qu'il a l'air alerte, il aura déjà gagné une partie du match. La seule inquiétude de ses conseillers, c'est sa propension aux gaffes. Il peut aussi s'énerver très vite, notamment quand on lui parle de sa famille. Et ça, Donald Trump le sait. Ça inquiète un peu Alexander, un démocrate qui sait que le moindre faux pas sera exploité par la suite.
J'ai eu un peu peur avec Biden que quelque chose d'incroyable arrive sur la scène. Mais autrement, je crois que les débats seront nuls et pas importants. Les gens sont déjà décidés.
Et en effet, selon un sondage, seulement 3% des électeurs disent que ce débat va peser dans leur choix.
Xavier Yvon dans l'Ohio, donc pour Europe 1.
Et on en parlera très largement de ces élections américaines et de ce duel attendu ce soir à partir de 19h15 dans le débat du Club des idées.
Du nouveau sur l'attaque de vendredi dernier devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, attaque qui a fait 2 blessés graves. Le procureur de la République a fait le point tout à l'heure.
Oui, avec notamment une confirmation, Justin Morin. L'auteur des faits a menti sur son âge.
Oui, il a bel et bien 25 ans et non 18, comme il l'a d'abord affirmé lors de son arrestation. Les enquêteurs ont réussi à lui faire avouer qu'il mentait sur sa véritable identité, et ce, depuis qu'il est arrivé en France, il y a 2 ans. Pour le pousser aux aveux, ils se sont appuyés sur une vidéo et une photo retrouvée sur son téléphone portable. Sur la vidéo où il revendique son geste pour, je cite, « se révolter contre les publications des caricatures de Mahomet », il se présente sous une autre identité que celle enregistrée par les services sociaux qui le suivaient jusqu'à présent en tant que mineur non accompagné. La photo de son passeport retrouvée par les enquêteurs a permis de recouper l'information. Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard.
Après avoir contesté l'authenticité de ce document, il a finalement reconnu qu'il s'agissait de sa véritable identité et qu'il était donc âgé de 25 ans. En tout état de cause, sous ces diverses identités, le mis en cause était totalement inconnu de l'ensemble des services de renseignement.
Et pour le moment, aucun signe de radicalisation n'a été découvert, ni d'allégeance à un quelconque groupe terroriste.
Et on a aussi appris qu'il comptait incendier ce qu'il croyait être donc les locaux de Charlie.
Oui, il l'a aussi avoué. Sur Internet, il a fait des recherches pour trouver l'adresse du journal sans savoir que la rédaction avait déménagé. Il a aussi effectué des repérages. Les policiers ont retrouvé dans son sac des bouteilles de White Spirit, des chiffons et un marteau, prévu au départ pour entrer par effraction dans les locaux. Mais finalement, il a changé ses plans au dernier dernier moment. L'auteur des faits a été présenté à un juge cet après-midi en vue de sa mise en examen pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes à caractère criminel.
Merci Justin Morin.
Dans l'actualité également ce soir, un ministre dans la tourmente, Éric Dupond-Moretti, vient pourtant de décrocher un budget inespéré et inédit pour la justice, mais il fait face à une fronde sans précédent.
Oui, Chloé Triomphe, c'est simple, hein, les initiatives anti-Dupond-Moretti se multiplient ces derniers jours et dans tout le pays.
Oui, vraiment pas de chance pour un ministre qui vient de décrocher plus de 8 milliards de budget, soit une hausse de 8% pour son ministère. Les siens ne lui font pas confiance. Une assemblée générale extraordinaire à Paris hier, des AG à Tours, Rouen, Chaumont, Lille et ailleurs, une tribune des deux plus hauts magistrats de France, une demande de rendez-vous de la part de quatre magistrats parisiens. Mais quand la question de la confiance lui est posée tout à l'heure lors de la présentation de son budget, le garde des Sceaux est sur la défensive.
Écoutez, madame, que ceux qui critiquent continuent à critiquer. Voyez-vous, moi je travaille, c'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, on parle du budget. Voilà 25 ans qu'on attend ce budget, on est allé le chercher avec les dents. Ça m'importe bien plus que ce que tel ou tel a pu écrire dans tel ou tel canard, dans tel ou tel chronique, sur tel ou tel plateau de télé, voyez. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ça ne m'intéresse plus. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je n'enlève pas un mot de ce que j'ai dit. Pas un.
Voilà une réponse qui se veut donc basée sur des éléments concrets, sur des moyens en hausse, mais visiblement pas sur le dialogue.
Visiblement. Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1, merci Chloé. Stop à la dictature sanitaire. La fronde continue contre les mesures imposées dans les bars et dans les restaurants. Une manifestation se tient ce soir à Lille, notamment on sera sur place dans votre journal de 19h.
Oui, le virus qui continue par ailleurs de se répandre et qui continue de tuer à travers le monde.
En Israël, le reconfinement décrété pour lutter contre le plus haut taux de contamination au coronavirus au monde, ce confinement sera prolongé au-delà des trois semaines initialement prévues. L'Irlande du Nord a, elle, ordonné aujourd'hui aux bars et aux restaurants de fermer à 23h à partir de demain. Et puis la Belgique lance à son tour une application équivalente de notre Stop Covid. Elle s'appelle Corona Alert.
18h07, la suite de votre journal avec cette première victoire pour les militants de la cause animale.
Et la ministre de l'écologie a en effet annoncé aujourd'hui qu'elle voulait mettre fin à la présence d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, Virginie Salmen.
Oui, on ne devrait plus voir les 500 fauves, 6 éléphants et 2 hippopotames des cirques ambulants de France. Au total, ça représente 2500 animaux sauvages selon les représentants des 80 cirques familiaux ambulants. Et ça ne concerne ni les cirques fixes, ni les spectacles avec animaux sauvages, mais ceux qui sont transportés de ville en ville dans des camions-cages. On ne devrait donc plus les voir sur scène, mais quand ? Barbara Pompili ne s'engage pas sur un calendrier. Elle aurait évoqué une transition en 5 ans, selon les représentants des familles de cirque.
Oui, et puis des nouvelles pratiques également annoncées pour les delphinariums.
Oui, c'est la fin programmée des parcs d'attractions avec dauphins. C'est très clairement l'objectif dans un délai de 7 à 10 ans. La ministre annonce l'interdiction d'introduire de nouveaux dauphins ou orques dans les bassins et l'interdiction de reproduction des 29 dauphins et 4 orques des parcs français. Interdiction qui est loin d'être évidente à entendre le directeur du Marineland d'Antibes, Pascal Picot.
Comment on les empêche de se reproduire? Quelle méthode doit-on appliquer? On ne peut pas stériliser les mammifères marins pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas les anesthésier. On attend de voir comment on va nous suggérer de faire, mais on fera que s'il y a un soutien des vétérinaires et scientifiques qui nous affirment que les méthodes à utiliser sont sans danger pour les animaux.
Alors les plus jeunes dauphins de ces bassins peuvent vivre encore au moins 40 ans. L'idée serait donc de créer des bassins en mer pour leur assurer de meilleures conditions de vie. Très coûteux selon la profession et les 8 millions d'euros de budget total des mesures annoncées aujourd'hui seront loin d'être suffisants selon les professionnels.
Et puis Virginie, finit également les élevages de visons qui servent à la fourrure.
Oui, il y a 4 élevages de visons d'Amérique en France. Ils devront fermer d'ici 5 ans. La profession, sous le choc, dénonce une influence des militants du bien-être animal jusqu'au sein du gouvernement. La ministre Barbara Pompili fait valoir, elle, que les Français sont majoritairement contre le commerce de la fourrure. 91% selon le dernier sondage IFOP.
Merci Virginie Salmen. On verra à 19h que les propriétaires de cirque voient d'un très mauvais œil ces annonces.
Europe 1, Julien Bugier.
18h09, dans un instant, on parlera de cette dernière ligne droite avant l'arrivée de la 5G en France. Vous allez voir, ça y est, c'est parti.
Et puis on ira à Roland-Garros aussi, et ça va pas fort du tout pour les Français jusqu'à présent.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h11, c'est la suite de votre journal avec Isabelle Millet. C'est donc le jour J, début aujourd'hui des enchères pour le processus d'attribution des fameuses fréquences de la téléphonie mobile de 5e génération.
Cette fameuse 5G dont on nous dit tellement de bien ou de mal. En tout cas, Élise Dangean, cette fois, le processus est lancé. Est-ce que ça veut dire, Élise, qu'elle va arriver en France dans les prochains mois? Ça y est, c'est pour demain?
Eh bien, presque, puisque l'objectif des opérateurs, c'est de proposer d'ici Noël les premières offres grand public. Mais attention, pour en profiter, il faudra impérativement se racheter un nouveau téléphone, car ceux que nous avons actuellement ne sont pas compatibles avec la 5G. Quant au forfait, eh bien, il pourrait être plus cher car les opérateurs vont devoir compenser les milliards d'euros dépensés lors de ces fameuses enchères pour l'achat des fréquences. Le tout pour une 5G qui ne sera pas pleinement opérationnelle à la fin de l'année. C'est un processus qui va prendre du temps. Au total, 42 000 antennes, toutes opérateurs confondus, seront déployées d'ici à 2025. Et ce, sur les 85 000 sites déjà existants. Autant dire que les disparités de couverture réseau entre les villes et les campagnes ne sont pas prêtes de disparaître.
Merci Élise Dorjan, on va sans doute y avoir des téléphones sous les sapins de Noël.
Oui, 5 ans pour changer de téléphone, d'ici là on aura des puces intégrées, peut-être dans le petit doigt. À Calais, les forces de l'ordre ont procédé aujourd'hui au démantèlement d'un campement de migrants, 700 à 800 personnes évacuées.
Oui, c'est la plus importante opération de ce type depuis l'évacuation de la jungle, c'était en 2016. Emmanuel Macron en médiateur, il promet son aide pour des négociations en Biélorussie.
C'est ce qu'il a dit effectivement ce matin à l'opposante Svetlana Tikhanovskaya qu'il a rencontrée en Lituanie où elle est en exil.
Et cette dernière va venir en France où elle s'exprimera la semaine prochaine devant l'Assemblée nationale. Vladimir Poutine, lui, dénonce des pressions extérieures.
Les sports, direction Roland-Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et on vous retrouve en direct, après la petite musique, comme tous les soirs, Corinne Boulou avec un numéro 1 mondial expéditif.
Ah oui, un Novak Djokovic en démonstration, tout en contrôle, qui en un peu plus d'une heure et demie a renvoyé à ses études le jeune Suédois de 22 ans, Mikael Immer, 80e mondial sur le score sans appel de 6-0, 6-2, 6-3. Un Djokovic express donc sous le toit du Châtrier. Depuis le début de l'année, il enchaîne les victoires. Sa 32e aujourd'hui, hormis sa disqualification à l'Open d'Australie, le seul accroc de sa saison. Le numéro 1 mondial victorieux du récent tournoi de Rome est ici pour faire mieux que l'an passé où il avait calé en demi-finale et surtout pour faire aussi bien qu'il y a 4 ans, lors de sa seule victoire à Roland-Garros. Ce début de campagne sur terre battue est prometteur. Le duel à distance avec Rafael Nadal est donc lancé, Isabelle.
Effectivement. Et sinon, Corinne, mauvais début de journée, en tout cas pour les Français, jusqu'à présent.
Oui, compliqué en effet après les éliminations de Kristina Mladenovic, Hugo Humbert et du jeune Harold Maillot, 20 ans, vainqueur en début d'année de l'Open d'Australie Junior. L'éclaircie du jour vient de Fiona Ferro. La Française de 23 ans vient d'obtenir son billet pour le deuxième tour en s'imposant face à la Britannique Watson en 2-7, 7-6, 6-4.
Merci beaucoup Corinne Boulou en direct de Roland-Garros.
Dans un Roland-Garros absolument vide. C'est étonnant, on entend tous les bruits comme s'il n'y avait personne.
Sauf Nelson Montfort.
Sauf Nelson Montfort, effectivement. Merci Isabelle, à tout à l'heure, 18h30 pour le rappel des titres.